Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles, lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
Le sens de l'essentiel, lire pour échapper au confinement, échapper aussi aux idées confinées, lisez bien sûr. C'était le chef de l'État le 17 mars, confinement 1, alors d'accord, confinement 2, acheter un livre, oui mais comment ? Pas à la librairie, pas non plus finalement dans les rayons culture des supermarchés, ni à la FNAC. C'est ce qui a été décidé hier face à la colère des libraires, distorsion de concurrence. La FNAC plus les Carrefour, plus les Leclerc, les Auchan, ça représente la moitié des ventes de livres en France. Donc, première conséquence, l'accès aux livres est devenu plus difficile. Mais c'est vrai, ce matin, une partie du problème économique est résolue. L'autre partie, elle, vous serez d'accord, elle reste entière. Elle s'appelle Amazon. Amazon qui continue à vendre des livres. Et il y a fort à parier que le sujet va enfler. Les vendeurs de jouets, de bijoux, de vêtements aussi ont des revendications. Ça va être le Black Friday, ça va être Noël. Ils se sentent acculés, ils se sentent en colère. Face à Amazon, attention, le commerce aussi pourrait avoir des gilets jaunes.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Mag Écho. Il est réalisé par Juliette Gou. Valentin Pérez est attaché de production. Et à la technique ce matin, Julien Dumont est aux manettes. Alors, deux titres ce samedi. En France, notre confinement, saison 2. Nous fera-t-il chuter aussi durement que le premier? Et puis toujours des gagnants, des perdants, les débatteurs sont à mes côtés. Bonjour à vous Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour à tous.
Et bonjour à vous Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne.
Bonjour.
On se retrouve dans une seconde. L'autre titre à la une, il est énorme pour, et on en parlera aussi. Aux États-Unis, la présidentielle, nous sommes à J-3. Quel est le bilan économique de Donald Trump? À quoi ressemblerait le monde selon Biden? Des questions sur la première puissance économique mondiale qui nous concerne évidemment aussi. Et ce matin, dans On n'arrête pas l'écho, un invité exceptionnel, un économiste américain incontournable, c'est l'ancien conseiller de Barack Obama, Jason Furman, interview à 9h45. Mais tout de suite donc, notre premier sujet, l'actu chez nous, c'est le reconfinement.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus.
Emmanuel Macron.
Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur trois points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées.
L'épidémie est hors de contrôle.
Jean-Luc Mélenchon.
Et permettez-moi de vous le dire, il me semble que le président aussi.
Président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale.
Je vous en conjure, entendez le tocsin que sonne la pauvreté en France. Pour les 10 millions de pauvres, la détresse alimentaire va s'incruster. Écoutez bien, vous n'empêcherez aucun parent qui n'a ni revenu ni travail de sortir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour trouver de la nourriture pour leur famille. Ne laissez pas sans revenu les précaires dans la masse des étudiants et des artistes qui contribuent à la beauté de la vie.
Bruno Le Maire.
Nous soutenons les entreprises massivement. Nous soutenons les salariés massivement.
Ministre de l'Économie.
Nous sommes en période de confinement. Il faut encore plus renforcer le soutien aux entreprises et soutien massif à l'économie. Et encore plus massif dans ce deuxième confinement que ce que nous avions fait au premier pour protéger les entrepreneurs, les commerçants, les indépendants. Nous allons provisionner 20 milliards d'euros supplémentaires dans le projet de loi de finances rectificative numéro 4.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Le fait de fermer les commerces est une erreur. On a besoin de ces commerçants. Derrière, il y a plus de 3 millions d'emplois.
Président du MEDEF.
Ce sont des entreprises extrêmement fragilisées qui risquent d'aller en faillite. Le soutien ne suffit pas. C'est-à-dire qu'un commerçant qui a 2-3 salariés, quand il n'a pas de perspective, il va mettre la clé sous la porte.
On est vraiment à bout.
Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France.
On est vraiment les victimes de la décision du président de la République, la maroquinerie. C'est 40% du chiffre de l'année en cette période. Et les libraires, les fleuristes, à 6 semaines de Noël, comment voulez-vous que les magasins de jouets puissent se battre avec Amazon ?
Alors, ce confinement d'octobre, ça n'est pas le même confinement qu'en mars, Laurent Bigorgne. Ça n'est pas un confinement strict.
Ça n'est pas un confinement strict pour le moment.
Gardons-nous d'imaginer
ça
le
commence
pire.
Bien.
Mais on sait tous que l'épidémie a redémarré au cœur du mois de juillet. Elle est montée progressivement juillet-août. Et ce qui a surpris ces 15 derniers jours, c'est sa brutalité. Et ce qui, je crois, a conduit le gouvernement, d'ailleurs, à reprendre de façon différente, mais une proposition qui avait été mise dans le débat par Esther Duflo et son époux Banerjee, qui disait,
mais au fond, prix Nobel d'économie.
Exactement. Et qui disait, au fond, si on veut avoir des fêtes de fin d'année à peu près normales, compte tenu de ce qu'est l'évolution de l'épidémie, il faudra peut-être songer un moment ou un autre à refermer. Donc, autant anticiper, prévoir, pour que ce soit le moins difficile possible. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on a voulu éviter le confinement généralisé du printemps, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire que le BTP, surtout, et un certain nombre d'industries continuent de pouvoir fonctionner. Dans le secteur public, ce sera nécessairement différent, puisqu'on nous dit cette fois-ci qu'un certain nombre de services publics essentiels, mais c'est vrai de la justice, c'est vrai de Pôle emploi, et ô combien essentiel en ce moment, mais les services municipaux, sans doute aussi la Poste, vont fonctionner. Et puis la vraie différence, ce sont les écoles qui sont ouvertes. Et c'est l'éducation nationale qui est évidemment ouverte à partir de lundi.
Christian, oui. Ouais,
on voit que les masses économiques en jeu sont pas du tout les mêmes que ce qu'on avait en avril. L'agriculture plus l'industrie plus la construction, ça va continuer à peu près à fonctionner. C'est 20% du PIB. Derrière, ce que les économistes appellent les services non marchands. En gros, on va dire les services publics. Les écoles, les lycées, la poste, la justice, la sécu. Tout ça, en gros, c'est un peu plus de 20% et ça va continuer à fonctionner. Et c'est important. Tout bêtement, pour une question de convention statistique. En France, on a continué en avril à payer les fonctionnaires, mais l'État a dit, puisqu'ils travaillent pas, on considère qu'ils apportent pas de croissance, pas de richesse. Alors que beaucoup de pays européens ont décidé que, comme ils les payaient, et comment est-ce qu'on fait pour estimer la production de richesse des fonctionnaires? Bah, c'est au salaire qu'on leur verse. C'est comme ça que les statisticiens mesurent la production de richesse des fonctionnaires. Aujourd'hui, on va considérer qu'ils continuent à travailler. Donc, tout bêtement, cet écart de croissance entre plusieurs pays européens et la France, qui est simplement dû au fait que nous, on considérait que les fonctionnaires travaillaient pas, alors qu'ils considéraient dans les autres pays que les fonctionnaires travaillaient. Cette simple différence statistique va faire qu'on va avoir une croissance plus forte en dépit du confinement. Et enfin, dans le commerce de détail, bon, les trois quarts à peu près vont rester ouverts entre l'alimentaire, les pompes à essence, les pharmacies, le commerce en ligne. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration qu'au mois d'avril, même si c'est vrai, en France, j'ai été surpris de découvrir ça, 35% en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, le commerce de détail, c'est moins de 30% du commerce. Alors que chez nous, c'est 35%, on est plus proche des pays méditerranéens.
Et on va venir évidemment à la colère de certains commerçants, à cette. Ouais. Bon, on va en parler, mais juste pour nous faire une photo de ce confinement, on voit bien qu'il y a deux différences, Laurent Bigorne. Il y a en effet les écoles, ça permet aux parents de travailler, et puis il y a cette injonction au télétravail, c'est ça aussi la grosse différence.
Oui, ça permet aux parents de travailler, ça permet par ailleurs aux élèves d'avoir une scolarité à peu près normale cette année.
Vous avez raison,
c'est absolument essentiel, hein, parce que ça, on en verra les effets économiques dans très longtemps. Mmh. Et c'est un renoncement qui serait, à mon avis, tout à fait coupable et criminel même. Non, il y a ces deux différences que vous.
Mais ça fait quelle philosophie? Bon, c'est métro boulot dodo, quoi. C'est ça. On nous dit ne traînez pas dans la rue.
Non, mais c'est une philosophie de discipline collective. Moi, par exemple, je suis absolument pas en ligne avec ceux qui nous disent on a sacrifié la santé à l'économie, par exemple. On voit bien que la décision qui a été prise sur le commerce de détail, justement, c'est une décision qui est le fruit d'un arbitrage perdu par Bercy, qui souhaitait plutôt qu'on garde les plus grandes plages d'ouverture possibles, contre la santé, qui souhaitait plutôt le ministère de la santé diminuer les déplacements, limiter au maximum les déplacements. Donc on a vraiment choisi, je crois, une ligne de crête pour garder la santé, sachant que le président l'a dit, et je pense qu'il a eu raison d'être pédagogique sur ce point, on peut pas se permettre, au fond, la propagation de l'épidémie au titre d'une immunité collective. Ça ne marche pas, et on n'est même pas sûr de l'efficacité de cette mesure. Donc on voit bien qu'ils sont à la recherche d'une ligne de crête, nos dirigeants, pour garder le maximum de secteurs ouverts, dans un contexte où il ne faut pas oublier que les entreprises, par ailleurs, se sont organisées. Il y a eu une espèce d'anticipation du confinement avec le couvre-feu. Il y a des protocoles sanitaires qui fonctionnent. Ce qui est vraiment très difficile cette fois-ci, c'est qu'il y a des gens qui sont touchés par la seconde fois. Et effectivement, pour toute une partie de la restauration, des bars, de la culture, des transports, le transport aérien, le tourisme, c'est la deuxième fois et sans doute une fois qui va être beaucoup plus difficile à passer que la précédente.
Christian, est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur le fait qu'on n'a pas sacrifié la santé pour l'économie? Le confinement est plus souple, mais c'est quand même, on est toujours sur la ligne de crête, la santé, l'économie, on n'a pas dit l'économie d'abord.
Le problème, c'est que la ligne de crête, on ne voit pas trop par où elle passe. Je pense que votre billet l'a bien montré, Alexandra. Oui, il y a des distorsions de concurrence. Comment est-ce qu'on peut fermer la librairie du coin et alors qu'au supermarché en face, on a le droit d'aller acheter des livres? Bon, évidemment, il y a eu de la bataille, mais vous l'avez dit, pourquoi pas demain les jouets, les vêtements, les bijoux, etc. etc. Donc on ne comprend pas bien comment nos technos de Bercy ont décidé de faire passer la ligne d'un côté de l'économie ou de l'autre côté de la santé.
Eux, ils étaient pour laisser tout ouvert.
Oui,
c'est bien, mais in fine, la liste, quand vous allez chercher la liste des commerces ouverts, et moi, la première chose que j'ai faite, pardon d'être aussi utilitariste, mais est-ce que les kiosques sont ouverts? Est-ce que mon numéro spécial 40 ans d'Alter Eco qui sort, et les gens vont pouvoir aller l'acheter? Oui, heureusement, mais pourquoi oui et pourquoi non?
Et il y a certains kiosques qui vendent des livres, d'ailleurs.
Il y a certains kiosques qui vendent des livres, donc vous avez raison de le dire. Est-ce que les gilets jaunes du commerce, on sait que dans les gilets jaunes, il y avait des petits commerçants. Moi, ma crainte, évidemment, c'est le retour du poujadisme. Que certes, et on voit déjà certains maires, alors j'ai pas la liste de tous les maires, mais enfin, il y a
Brive, Chalon-sur-Saône, Aubusson,
oui,
qui prennent des arrêtés, c'est ça,
politiquement,
pour autoriser.
Ils sont plutôt de très à droite ou très extrême droite. On voit bien que ça devient un enjeu politique. Pourquoi? Parce que la confiance dans le gouvernement n'est pas là, dans les décisions de santé et d'arbitrage santé-économie du gouvernement, malheureusement, n'est pas là.
Bon, alors là, on touche au sujet politique, mais il est important, en effet, parce qu'il y a cette idée de gilet jaune. Quand Laurent Bigorne, quand Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, dit il n'est pas le seul du tout, hein, mais c'est quand même une erreur, ça va vraiment, il y a un risque énorme de faillite, le gouvernement nous dit, il y a un plan de soutien quand même, ça, on va arriver à quoi? C'est une erreur ou pas? Est-ce qu'il va y avoir cette vague de faillite?
Moi je pense que c'est une erreur de la part de Roux de Bézieux de qualifier la décision gouvernementale d'erreur. C'est pas son rôle. Et je pense qu'on est face à une épidémie qui est extraordinairement sérieuse. Je ne pense pas un instant que ceux qui prennent les décisions les prennent au doigt mouillé ou sur un coin de table. Si on a décidé de refermer, c'est que la situation était très grave. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe autour de nous. En Allemagne, regardez ce qui vient d'être annoncé pour Angleterre, où un confinement plus dur sans doute qu'en France va reprendre sans doute dès la semaine prochaine. Donc il faut voir et avoir ce point repère, je crois, à l'esprit. Deuxième chose, je suis frappé, alors je sais qu'on a toujours des débats avec Christian et c'est normal, on est là pour ça, sur les enquêtes. Mais j'ai regardé plusieurs enquêtes d'opinion après l'allocution du président. Il y a en gros, quelle que soit l'enquête qu'on prenne, 80% des gens qui sont sondés, qui estiment que le confinement ira au-delà du 1er décembre. Donc ils anticipent, et ils ont tout à fait compris la difficulté dans laquelle on se trouve. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une très large adhésion aux mesures économiques qui sont prises. C'est plus de 80 ou 90% sur l'intégralité des mesures qui sont testées. Et alors ensuite, c'est vrai, et c'est le point, il y a entre 2/3 et 3/4 des Français qui admettent ce reconfinement, mais pas les jeunes. C'est-à-dire que ce taux d'adhésion, il diminue plus on va vers les couches jeunes de la population. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de pédagogie encore à réussir si on veut embarquer tout le monde et que ce deuxième reconfinement soit réussi, sachant que ce qui va compter, c'est évidemment de réussir le déconfinement pour essayer d'éviter une troisième vague.
Oui, ça a été notre souci. Mais si je reviens au commerce, Christian Chavagneux, quand même, je veux dire, est-ce qu'en effet, cette fois-ci, ce second coup porté à l'économie, ça va créer des faillites. On l'a beaucoup dit, la vague n'est pas arrivée. Vous nous l'avez dit, vous aussi. Il n'y a pas la vague.
Moi, j'ai un optimisme tout relatif de court terme et un pessimisme plus profond sur le moyen long terme. Pourquoi? À court terme, j'ai rappelé les masses en jeu tout à l'heure. Je pense que l'économie est beaucoup moins touchée qu'elle ne l'a été en avril. On nous avait dit, on était à 4 points d'avoir retrouvé, 4 points de PIB d'avoir retrouvé la production de richesse de 2019. À cause de ce second confinement, on a eu plein d'études économiques d'hier, on sera plutôt à 5 points en dessous plutôt que 4 points en dessous. Donc oui, un point de PIB, c'est significatif, mais en même temps, c'est pas une grande récession, c'est pas quelque chose de trop puissant. Donc je pense qu'on peut quand même réussir à sauver l'économie relativement. Évidemment, ceux qui sont touchés pour la deuxième fois, c'est énorme, mais je pense que globalement, pardon de ce raisonnement macroéconomique, je pense qu'on peut peut-être réussir à s'en sortir à court terme. À moyen long terme, je suis plutôt inquiet. Pourquoi? Parce que on a eu 15 grandes épidémies historiques dans l'histoire. Nous, on en a eu plein depuis 30 ans, entre Ebola, le Sida, le SARS-CoV-1 en Asie, etc. De quoi on s'aperçoit que nos épidémiologistes, ils n'ont pas réussi à trouver une théorie générale du virus. La médecine, elle est fille de l'histoire. Elle est obligée de réinventer des solutions à chaque fois qu'il y a une nouvelle épidémie. Donc nous, entre janvier, on a eu les premiers éléments et on nous dit que le vaccin, c'est pour l'été prochain. Un an et demi d'incertitude radicale. Comment on fait quand on est un ménage et qu'on a de l'épargne, quand on est un chef d'entreprise et qu'on doit investir ou sauver ou pas sa boîte pour investir? Ce qui marche, c'est quand les relations entre tous les acteurs économiques fonctionnent. Or là, il y a les entreprises qui tournent, celles qui tournent pas. S'aperçoit que les entreprises mettent du temps à payer leurs fournisseurs. C'est pas bon. Les entreprises ont du mal à avoir des prêts des banquiers, c'est pas bon. C'est un ensemble économique qui doit fonctionner ensemble. Et là, j'ai l'impression que sur le moyen long terme, les relations entre les acteurs économiques vont éclater. Ça, c'est vraiment pas bon pour le moyen terme de l'économie.
Laurent Bigorne, à court terme, il y a le plan de, il y a des nouvelles mesures de soutien. On va peut-être pas tout détailler, mais on a l'impression que le gouvernement, là, il prend plus à ça, l'État, c'est-à-dire nous, prenons plus à notre charge les charges fixes des entreprises, c'est
oui,
ça.
Oui, on a sorti les très gros tuyaux. Hein. On estimait qu'un couvre-feu, il allait coûter 1 ou 2 milliards. Là, on est jusqu'à 20 milliards. C'est ce qui va être voté au projet de loi de finances rectificatif en novembre. Et on va rentrer dans le chômage partiel couvert à 100%. Le fonds de solidarité va jouer à plein. Son enveloppe va encore être relevée. On va presque être à 10 milliards de fonds de solidarité. Il y aura des indemnités pour verser à ceux qui ne bénéficient pas du fonds de solidarité. On va maintenir et prolonger les prêts garantis par l'État. On envisage
de deux
même...
ans, c'est ce que il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui attendaient
ça. On va rallonger la maturité. On envisage même que l'État pourra prêter directement jusqu'à 10, voire 50 000 euros dans certains cas. On va exonérer de charges. C'est un montant qui est déjà évalué à plus de 5 milliards les exonérations de charges. Et puis on est même aujourd'hui dans la question dure qui est celle des loyers, hein, pour les commerçants notamment.
Il va y avoir un crédit d'impôt pour inciter les bailleurs à baisser les loyers.
Tout ça c'est bien, mais je pense qu'on est dans l'enfumage du quoi qu'il en coûte. Pourquoi? Parce que quand on compare, l'OFCE a fait ce travail de quel est l'effort budgétaire depuis le début entre les mesures de soutien et le plan de relance. Alors, je ne parle pas des toutes récentes mesures, hein, mais on s'aperçoit qu'en France, en gros, c'est 4 points de PIB de soutien. L'Italie, c'est 5,6 points. L'Allemagne, c'est 5,8 points. L'Espagne, c'est 6,5. Les États-Unis, c'est près de 12 points de PIB. Voilà, entre 4 et 12, 3 fois 4, 12. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Tout ce que le gouvernement a fait, je l'ai dit déjà plusieurs fois à ce micro, c'est très bien. Il fallait le faire. Mais on est en dessous de ce que réclame un vrai soutien à l'économie dans une situation d'incertitude radicale sur le moyen terme.
Laurent,
on est le pays pour lequel, je finis juste, Laurent, on est le pays dans lequel les pertes des ménages et des entreprises ont été le moins compensées par la puissance publique de la part des autres grands pays européens. Il faut aller plus fort.
Des ménages aussi.
Mais bien sûr qu'il y a eu l'aide.
On a déjà dit à cette antenne que par ailleurs les pertes des entreprises étaient 10 fois 5 des ménages. Mais revenons un instant à ce que nous dit Christian, qui est très important. Il y a eu énormément d'argent mis sur la table, comme jamais en France.
Oui.
Ce que vous nous dites, Christian, c'est qu'au final, il faudrait remettre de l'argent, sans doute, pour des aides à la consommation, dans un contexte où les gens ne consommeront pas.
Non,
donc attention à ça.
Aider les entreprises, vous voulez défendre les entreprises. Aidons les entreprises. Et les ménages les plus pauvres, on l'a dit, c'est pas avec les 800 millions, c'est pas avec le plan pauvreté qu'on va les aider. Mais les chefs d'entreprise, la première réponse à l'incertitude radicale, c'est le carnet de commandes. Et on sait que plus on aide les pauvres, plus ils dépensent. Et là, pardonnez-moi Laurent, mais le gouvernement est en dessous de tout.
Je trouve qu'on a dépensé énormément entre les mesures de soutien. Le plan de relance à 100 milliards, c'est 5 points de PIB supplémentaires sur les deux années qui viennent. On pourra regarder ce qu'il faut faire, puisqu'on vient de réajuster pour 20 milliards de plus.
Mais est-ce qu'il faut faire plus, Laurent, pour les plus modestes? C'est ça le sujet. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un angle mort, là?
On s'est déjà dit, ici, sur cette antenne, qu'on pouvait sans doute faire plus de façon, j'allais dire, ponctuelle. Ce qui m'inquiète énormément, c'est la tentation de dire il faut lâcher toutes les vannes pour faire plus dans la longue durée. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, parce que ce sera insoutenable du point de vue des finances publiques. Et il faudra bien revenir à cette question un jour.
Ça nous mènera au sujet sur la dette. Et je pense que le débat, on va l'avoir plus d'une fois. Alors on s'arrête là parce que je pense que ce confinement il va nous occuper plusieurs semaines, hein, au moins jusqu'au 1er décembre. Je vous propose à présent de quitter la France après le confinement J2. Christian, Laurent, et ben voici les États-Unis J-3 et on a tous suivi les débats.
They said it would take a miracle to bring back manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing.
I was asked to bring back Chrysler and General Motors. We brought them back right here in the state of Ohio and Michigan. He blew it. They're gone.
Ohio had the best year it's ever had last year. Michigan had the best year they've ever had.
Il n'y a pas eu que des invectives. Les candidats ont aussi un peu parlé d'économie. Alors Christian Chavagneux, on va parler d'économie avec vous. Quel bilan faites-vous de 4 années de Trump? C'est la question, est-ce qu'il a rendu l'Amérique great again?
Allez, la croissance, il nous avait dit plus de 3% par an, et voire plus. Non, on l'a pas eu. Pourquoi? La part de l'investissement productif, ce qui dans la richesse américaine, ce qui fait le dynamisme, ça n'a pas cessé de diminuer. C'était là avant Trump. Trump a pas remis ça en cause. Jobs, il devait créer des millions et des millions d'emplois. Hors période de crise profonde, bien sûr. Je prends pas 2020 avec la pandémie. Je prends pas Barack Obama, juste les effets de 2007-2008. Si vous prenez Obama, juin 2009, décembre 2016, à peu près 12 millions d'emplois. d'emplois créés. Trump a, jusqu'à la fin 2019, 6,5 millions. Il n'y a pas photo.
Alors, Laurent, quand même, moi, si je regarde Donald Trump sur Jobs, c'est avec lui que les Américains ont eu le taux de chômage le plus bas.
Ouais, il s'est passé à la fois, effectivement, le taux de chômage le plus bas en 50 ans, l'augmentation des salaires assez dynamique, y compris pour les salariés les plus modestes, un taux de pauvreté qui est tombé à 10,5%, mais c'est quand même largement l'héritage de la gestion précédente.
Bah oui.
Il faut dire les choses. Et par ailleurs, c'est un cocktail d'étonnant de mesures, parce que si on regarde les Trumponomics, c'est quoi les Trumponomics? C'est-à-dire les mesures économiques de Trump, c'est un mélange d'énormes dépenses budgétaires. On a laissé tomber toutes disciplines budgétaires qui sont pourtant chères aux républicains d'ordinaire. C'est énormément de baisses d'impôts, aussi bien aux ménages qu'aux entreprises. Et puis, c'est beaucoup de dérégulation financière, dérégulation environnementale. Et ce cocktail détonnant, aujourd'hui, il est évidemment mis en danger par la politique du Covid, tout simplement parce que on n'a pas construit dans l'ère Trump une croissance durable ou des fondamentaux qui permettaient de se dire que l'économie américaine serait suffisamment solide pour passer la barre du Covid, avec aujourd'hui un problème de chômage qui est esquivé à plus de 8 points de chômage, donc un quasi-doublement depuis la fin 2019, et puis des mesures économiques qui sont en discussion dans la campagne et qui vont nous dire si oui ou non on est en train de dessiner l'Amérique de demain.
Christian, est-ce que on peut dire que, j'entends tout cela, mais est-ce qu'on peut dire que jusqu'à ce que le Covid frappe, Trump avait un bon bilan économique?
Non, Trump n'avait pas un bon bilan économique. Les États-Unis, comme les grands pays industrialisés, sont touchés par ce qu'on appelle la stagnation séculaire. Une dynamique profonde depuis 10-15 ans qui fait que la productivité des économies s'effondre, que l'innovation n'est pas source de productivité. Est-ce que Trump a réussi à combattre ça? Il n'a pas réussi. Est-ce qu'il a trouvé par d'autres moyens le moyen de redonner un boost sur la croissance, sur l'investissement des entreprises? Il n'a pas réussi. Est-ce qu'il a un bilan emploi positif? Il n'a pas réussi. Est-ce que les inégalités qui frappent les États-Unis depuis les années 70, il a réussi à les maîtriser? Au contraire, avec sa politique fiscale, il a renforcé les inégalités. Donc, tout le bilan est négatif.
Alors, on s'arrête sur la politique fiscale, peut-être, parce que c'est ça, Laurent, sa mesure phare. Hein. C'est 2017, grande baisse de la fiscalité pour les entreprises et les ménages.
Exactement.
Ça donne quoi?
La baisse de la fiscalité pour les entreprises avec un équivalent de notre impôt sur les sociétés qui a baissé de plus d'une dizaine de points. Et puis, une économie en moyenne pour les ménages d'à peu près 8% de leur impôt sur le revenu, qui a été une économie très proportionnelle. C'est en cela que Christian dit sans doute qu'elle est inégalitaire. Et avec d'ailleurs un Biden qui propose de revenir aux taux marginaux de fiscalité sur le revenu d'avant la période de Trump pour les ménages les plus aisés. Donc c'est j'allais dire, déjà un débat qui sera tranché dans les urnes. Sachant que, attention de ne pas avoir un point de vue que de français sur l'élection américaine, ce qui me frappe énormément dans la façon dont les électeurs américains qualifient les différences entre Trump et Biden, c'est sans doute sur l'économie qu'ils reconnaissent le moins de légitimité à Biden par rapport à Trump. Et donc, il faut aussi avoir en tête que le cœur du pays, ne réagit pas nécessairement comme nous pouvons faire avec tous les outils que nous avons sur leur situation économique objective réelle, en tout cas avant Covid. Évidemment, Covid vient rebattre toutes les cartes. Il faudra avoir en tête que même si tout ça ne lui est pas dû, l'ère Trump, pour beaucoup d'Américains, c'est un moment où les salaires ont augmenté, ça a été un moment où la pauvreté a diminué, y compris d'ailleurs pour les communautés les plus défavorisées. Donc il y a une vraie ambiguïté dont on va voir comment elle se traduit dans les élections.
Christian Chavagneux, est-ce que quand Trump a promis, a dit je vais faire revenir les usines sur l'Est, la relocalisation, je vais faire revenir des usines, est-ce qu'il a réussi?
Pardon, je me permets juste mot sur la fiscalité, parce que en fait les 20% les plus pauvres ont bénéficié de 1% des baisses d'impôts et les 1% les plus riches de 20% des baisses d'impôts. Donc je pense que ce chiffre il est tout à fait clair. N'oublions pas quand même que dans la réforme fiscale de Trump, il y a quelque chose de très important qui est qu'il a taxé les multinationales beaucoup plus fortement, celles qui utilisent les paradis fiscaux. Et c'est parce que Trump l'a fait, le méchant Trump l'a fait, que ça a pu avancer au niveau international.
Tout n'est pas acheté chez Trump.
Tout n'est
alors
pas
si vous voulez, moi je vous la pose cette question.
Dans la politique fiscale, il a mis en place des outils absolument étonnants pour remettre en cause l'utilisation des paradis fiscaux par les multinationales américaines.
Son objectif était de relocaliser.
Bien sûr, avec en partie l'objectif de relocaliser, mais en même temps de lutter contre cette possibilité d'utiliser les paradis fiscaux. C'est pour ça que ça a pu avancer au niveau international. Et malheureusement, je pense que c'est le ministre français qui a mis tout en l'air. Enfin, c'est un autre débat.
Est-ce qu'il a relocalisé? J'ai entendu, mais est-ce qu'il a relocalisé?
Non, il n'a pas réussi à relocaliser. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de le faire avec des mesures je dirais, du monde du 19e siècle ou du 20e siècle, c'est-à-dire avec la guerre tarifaire avec la Chine, en disant « si vous m'achetez beaucoup plus, je vais pouvoir produire beaucoup plus sur le sol américain ». Il n'a pas réussi à faire ça.
Non. Enfin, en tout cas, il a pointé un sujet avec la Chine. Ça, c'est un sujet, évidemment, qui a fait l'objet maintenant d'une prise de conscience, même en Allemagne, ce qui n'était pas le cas encore il y a 3 ou 4 ans. Mais franchement, ces mesures ont été plutôt contre-productives. D'abord, il a fait reculer le secteur agroalimentaire, qui exportait beaucoup depuis les États-Unis vers la Chine, par exemple le soja, et là, son secteur agroalimentaire ne s'y est pas retrouvé. Ça a aussi eu un impact sur le pouvoir d'achat, puisque, au fond, l'importation d'habillement ou d'électronique est devenue plus chère. Et puis, il faut voir que les économistes nous expliquent que les droits de douane ont amoindri les effets des réductions d'impôts. Et donc, l'un dans l'autre, sa politique commerciale n'a pas été aussi efficace que cela.
Allez, on a essayé de faire un petit panorama rapide, mais pour pouvoir continuer d'en parler dans 10 minutes avec notre invité, l'ancien conseiller économique de Barack Obama, Jason Furman. Mais d'abord, les cohorts du studio. Trump et Biden, ils étaient en Floride avant-hier pour faire campagne. C'est un état clé où pour l'instant ils sont coude à coude. Vous aimez les palmiers? Vous avez envie de vous déconfiner? Alors voilà, c'est cadeau. Nous voici à Miami, sur Ocean Drive, avec notre reporter Benjamin Fontaine.
Je suis arrivé devant le Larios on the Beach. On dirait un hôtel sur une petite île grecque, en bleu et blanc. Ça a l'air fermé, on va aller voir.
Je vois l'accueil, un bar, un piano à l'intérieur, mais ça a l'air bien vide.
Je vais aller voir au restaurant à côté, tu vois.
Hi, hello.
Il est fermé, cet hôtel?
Latios? I don't exactly.
Je ne sais pas exactement. Ils disent que c'est fermé, mais je ne sais pas. Vous savez, ça appartient à Gloria et Stéphane, alors ça pourrait ouvrir.
Ah, ok.
J'espère, parce que c'est un bon restaurant.
Et vous, comment ça va?
Moi, j'essaie de rester optimiste. Maintenant que les choses s'arrangent un peu, on voit plus de gens qui viennent tard.
Beaucoup de restaurants essaient de survivre parce que la pandémie a eu un effet important sur nos porte-monnaies. Et il y a autre chose. Ocean Drive a changé. Ocean Drive, c'était une rue. Avant, il y avait beaucoup de voitures qui passaient. C'était beaucoup plus animé. Les gens ne marchaient pas. Il y avait des voitures partout. Mais ça a changé. Ils ne veulent pas que les gens mangent à l'intérieur des restaurants. Alors, on a agrandi la terrasse à cause du virus. Donc je pense qu'on va devoir changer de nom. Ça ne sera plus Ocean Drive, mais Ocean Walk. En un sens, c'est extraordinaire. En fait, ici, il y a un tel sens de la vie. Avant la pandémie, il y avait de la vie ici. On la sentait, des cris, du bruit. Maintenant, c'est plus silencieux. Les gens chuchotent. Enfin, je ne sais pas. Je crois qu'on essaye de faire avec.
Oui, je crois qu'on essaie tous de faire avec. La Floride, c'est 100 millions de visiteurs par an en moyenne et le tourisme, c'est le secteur qui rapporte le plus au budget de cet État. Alors évidemment, le virus fait des dégâts. Regardez, tiens, Ocean Drive, Ocean Walk, le Beacon Hotel a mis 90% de ses salariés au chômage. Les 10% qui restent, ils sont devenus multitâches. Et puis regardez encore 200 mètres plus loin, ça c'est le bar de Renato qui tente de s'adapter à une nouvelle clientèle pour rester ouvert. Allez, on suit toujours notre reporter Benjamin Fontaine. Et on entre. Bonjour madame.
Hi, how are you? Welcome to Other Lagos. Right now we have happy hour.
Pour permettre d'agrandir les terrasses, la rue a été rendue aux piétons, elle est fermée à la circulation. Les serveuses et les serveurs continuent d'interpeller les promeneurs, mais ils ne sont pas bien nombreux. Les touristes ont disparu, c'est ce que nous explique Renato Smith. Il gère un tout nouveau bar sur Ocean Drive.
Le problème le plus criant, c'est que maintenant, malheureusement, nous ne pouvons compter que sur la clientèle américaine, puisque les Européens ne peuvent pas venir. C'est une bonne moitié de nos revenus en moins. Depuis l'arrivée de ce Covid, tout est devenu moins cher à Miami. Et la nouvelle clientèle, ce ne sont plus les gens riches que nous avions avant. Maintenant, tout le monde peut venir parce que les vols sont beaucoup moins chers. Depuis partout aux États-Unis, c'est à peine 40 ou 50 dollars. Et les hôtels sont très bon marché aussi. Les gens qui viennent maintenant sont plutôt des gens qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent. Dans cette partie de Miami, on n'avait jamais eu ce problème. Et les autres restaurants n'avaient jamais eu ce problème non plus.
On va quitter Ocean Drive pour rejoindre Hialeah, une ville collée à Miami avec une très forte concentration d'hispaniques. À l'arrière du centre social, je retrouve George Gonzalez en train de distribuer des poulets congelés qu'il sort d'un carton. Une fois par semaine, ce chef de chantier est présent en tant que bénévole d'une association caritative.
C'est plutôt une zone à faible revenu. Ici, il y a une communauté plus âgée, donc la plupart des gens qui viennent sont des personnes âgées. On voit des jeunes quand même. Je m'appelle George Gonzalez et je suis volontaire pour Share Your Heart. Ici, le jeudi, à Hialeah, nous distribuons probablement assez de repas pour nourrir 1200 personnes. Nous venons ici tous les jeudis et nous donnons des conserves, du riz, du poulet. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Parfois, nous avons des haricots, d'autres fois des légumes ou des choses comme ça.
Pendant plus d'une heure, les voitures défilent. Les conducteurs ne quittent pas leur volant. George leur donne la nourriture par la fenêtre. Je parviens à arrêter Ernesto, un chef cuisinier de 42 ans. Il est venu avec sa femme et tous les deux sont désormais sans travail depuis 5 mois.
Je suis chez moi depuis 4-5 mois, enfermé tout le temps. J'ai perdu mon emploi. Je dois aller chercher de la nourriture dans la rue en faisant la queue. J'ai perdu beaucoup d'amis avec tous ces problèmes. Je dois gagner 5-6 000 $ pour pouvoir vivre humblement dans un immeuble et un petit appartement qui me coûte 1 200 $ quand mon salaire est de 10 $ de l'heure. J'aime mon pays, mais ce Covid a rendu les choses compliquées. Je ne connais pas mon avenir. Depuis 6 mois, le discours n'arrête pas de changer. Ils me disent une chose, puis une autre. Ils ont déjà baissé les aides. Elles étaient de 600 $ par mois et elles ont baissé à 300. Ce n'est pas assez.
Les centres sociaux de tout le comté de Miami ont vu les demandes de paiement, de factures ou de loyers exploser ces derniers mois. Signe que la précarité gagne du terrain, notamment dans la communauté latino. Le docteur Jerry Parrish est l'économiste en chef de la Chambre de commerce de Floride. Il confirme que l'État souffre de la crise sanitaire, mais certains secteurs s'en tirent mieux que d'autres.
Comme tous les États en Amérique, la Floride a perdu des emplois, à peu près 5% si on compare à 2019 à la même époque. En fait, la plupart des industries sont même proches du niveau où elles étaient l'an dernier. Ceux qui ont souffert le plus sont les loisirs et l'hôtellerie, les restaurants, et les plus grosses pertes d'emplois, c'est dans les hôtels. A contrario, nous avons des secteurs comme la construction qui sont à seulement 1% de moins par rapport à avant la pandémie. Il y a eu des programmes pour soutenir les entreprises. L'un d'eux s'appelait Paycheck Protection Program et celui-là était très populaire. Les entreprises pouvaient recevoir de l'argent du gouvernement et s'ils l'utilisaient pour payer les salaires et garder leurs employés, ils n'avaient pas à le rembourser. Il y a eu aussi des prêts et différents systèmes d'aide, pas seulement au niveau fédéral, mais aussi local. Et puis, vous savez, en fait, nous avons des impôts bas ici en Floride. Et une des choses qui attire les gens ici, c'est que nous n'avons pas d'impôts sur le revenu au niveau local. C'est un vrai atout pour les entreprises qui veulent s'installer ici. Nous avons aussi une bonne main-d'œuvre et nous avons encore des offres d'emploi et aussi des emplois bien payés.
Donald Trump a baissé les impôts, les taxes pour les entreprises. Il les a aussi libérées de certaines contraintes. Est-ce que ça a eu un effet positif chez vous en Floride ?
Oh oui, ces dernières années, il y a eu une suppression des taxes sur les machines pour les entreprises. Du coup, la Floride a vu une multiplication par 3 des emplois dans les industries manufacturières par rapport au reste du pays. Donc, on ne se porte vraiment pas mal, et vous savez, ça aide toutes les entreprises.
Vous allez peut-être vivre un grand changement dans les prochains jours avec un changement de président ou pas. Est-ce que ça inquiète les marchés financiers? Est-ce que ça inquiète les entreprises?
Ce qui est clair pour moi, c'est que tant qu'on a un vainqueur clair, les marchés ne vont pas réagir fort dans un sens ou dans l'autre, et cela, quel que soit le vainqueur. En fait, je pense que c'est moins crucial cette année, cette élection, parce qu'il y a tellement d'incertitudes, à commencer par la Covid-19, qui a eu un effet tellement immense. Donc je ne pense pas que l'élection aura un tel impact dans un sens ou dans l'autre.
Covid, élection, les incertitudes de l'économie américaine, c'était le reportage de Benjamin Fontaine.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et on poursuit la réflexion ce matin avec un économiste qui a été aux côtés du président Barack Obama durant 8 ans. Aujourd'hui, il enseigne à Harvard. Nous sommes très heureux de l'avoir en ligne avec nous sur France Inter. Jason Furman, bonjour, good morning.
Good morning.
Jason Furman, est-ce que vous diriez cela, ce dont votre économie a le plus besoin maintenant, après évidemment un traitement ou un vaccin, c'est d'un gagnant clair et net à l'élection?
Ce qui serait le plus bénéfique pour l'économie dans un premier temps, ce serait d'avoir un nouveau plan de relance. À plus long terme, ce qui serait utile, c'est d'avoir des réformes structurelles pour que la croissance soit mieux partagée. Et alors effectivement, il faut qu'il y ait un vainqueur clair et l'un des deux candidats est le mieux placé sur les deux plans.
On va parler du détail des programmes dans un instant, mais une question sur les intentions de vote. D'habitude, ceux qui votent se demandent « Est-ce que ma situation est meilleure aujourd'hui qu'il y a 4 ans ?» Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, vous pensez que l'économie pèsera autant dans leur choix ?
Non, dans ce cas, l'économie est un sujet moins important que d'habitude. En fait, la plupart des électeurs ont plutôt une bonne impression du président Trump sur le plan économique, mais ils sont très déçus sur sa gestion de la crise sanitaire et d'autres aspects sociétaux. Donc je pense que les gens ne voteront pas sur des bases économiques.
Et donc, quelle est la réalité de votre économie? Comment vont les États-Unis maintenant?
Bien, avant la crise sanitaire, l'économie se portait bien. En fait, il y a eu une amélioration continue au cours des 5 dernières années, aussi bien avant qu'après l'élection de Donald Trump. Alors évidemment, la pandémie a anéanti l'économie. Nous sommes ressortis des 2/3 du trou dans lequel nous sommes tombés à cause de la crise. Mais malheureusement, les niveaux de chômage restent très élevés et l'activité économique est très déprimé.
Et jusqu'à maintenant, le Congrès ne s'est pas mis d'accord sur un deuxième plan d'urgence, ni sur la taille, ni sur les mesures particulières. Est-ce que vous êtes inquiet de ce retard ?
Oui, cela m'inquiète. Le gouvernement américain a promulgué un très bon plan de relance au mois de mars. C'était un plan qui est arrivé au bon moment. Il était ambitieux, il n'était pas parfait, mais il était très utile pour l'économie. Mais il s'est arrêté à la fin du mois de juillet. Cela fait donc 3 mois qu'il n'y a plus rien eu. Et depuis, c'est l'impasse politique totale. Et ce que je crains, c'est qu'il faille attendre jusqu'à janvier pour le prochain plan de relance.
Et donc, quel est le danger si ce plan, ces mesures d'urgence n'arrivent qu'en janvier ?
Eh bien, le danger, c'est que l'économie fait face à deux problèmes. D'abord, l'arrêt de l'activité économique en raison de la crise sanitaire. Et là, les plans de relance n'y peuvent pas grand-chose. Mais il y a également une récession secondaire qui vient se greffer là-dessus. Les gens n'ont plus les moyens de consommer et cela détruit des emplois dans le commerce. Donc là, vous avez une spirale négative dans l'économie. Cette deuxième récession liée à la demande, là, on peut y faire quelque chose, mais malheureusement, on ne fait rien du tout. Donc vous avez un problème pour les ménages qui n'ont pas d'argent, mais c'est l'économie qui souffre en général.
Jason Furman, on y vient. Parlons des programmes. Bon, les deux candidats ont le même objectif, hein, ils veulent remettre l'économie d'aplomb. Donald Trump promet des millions d'emplois et de nouvelles baisses d'impôts. Vous l'avez dit vous-même, jusqu'à ce que le virus frappe, ses résultats n'étaient vraiment pas mauvais. Donc pourquoi ne pas lui faire encore confiance en 2020?
Le programme économique de Donald Trump présente 3 faiblesses. Le premier problème, c'est que il n'a pas dit ce qu'il comptait faire pendant un deuxième mandat. Il s'est surtout vanté des succès du premier mandat, mais il ne s'est pas vraiment projeté sur l'avenir. Le deuxième problème, c'est que ses politiques économiques n'ont pas véritablement fait bénéficier la croissance économique à tout le monde. Les réductions d'impôts ont surtout bénéficié aux familles les plus riches. Et en même temps, il a réduit les prestations de l'assurance maladie. Donc, il n'y avait pas vraiment un partage de la croissance. Et puis, à plus long terme, ce que Donald Trump veut faire pour restreindre aussi bien l'immigration que les échanges aura plus d'effets négatifs sur l'économie que toutes les réformes fiscales ont pu avoir d'effets positifs.
Alors justement, les échanges, il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que cela changerait avec Joe Biden ?
Joe Biden sera lui aussi très ferme envers la Chine. Là, il y a un vrai consensus entre le parti démocrate et le parti républicain. Tout le monde est d'accord pour dire que la Chine ne respecte pas les règles, c'est déloyal, ça nuit aux Américains. Mais Joe Biden, à mon sens, suivra une autre approche. Sa démarche sera multilatérale, donc il travaillera avec ses alliés, comme la France justement. Et son objectif sera pas tant d'obliger la Chine à acheter des produits américains pour réduire le déficit commercial, ce serait plutôt pour amener la Chine à respecter les règles, les normes concernant la propriété intellectuelle, l'investissement, etc.
Jason Furman, vous avez parlé de la France. Alors voilà une question qui nous importe particulièrement. La taxe GAFA, pensez-vous qu'on puisse s'entendre plus facilement avec Joe Biden sur la taxe GAFA qu'avec Donald Trump ?
Alors, je crois bien. Si Joe Biden est élu, je crois que sa démarche sera beaucoup plus multilatérale, beaucoup plus internationale. Il croit beaucoup aux institutions internationales. Il voudra renforcer la relation entre les États-Unis et l'Europe. Alors, la taxe GAFA posera quand même un réel problème au président, quel qu'il soit, parce que les présidents américains protègent les intérêts américains, les présidents français protègent les intérêts français. Non, il y a des intérêts divergents de part et d'autre. Pour autant, Joe Biden a fait de l'optimisation fiscale internationale une de ses priorités. Donc, les questions autour de la taxe GAFA pourraient s'inscrire dans un cadre plus large pour résoudre ces problèmes internationaux.
Donc, Joe Biden croit bien plus au multilatéralisme.
Ah oui, absolument. Et ce, depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Ce qui ne l'empêche pas d'adhérer à une forme d'America First.
Ah bah oui, et c'est normal. Enfin, le chef d'État est élu par ses concitoyens pour protéger les intérêts du pays. Donc, on peut comprendre quand même que, par exemple, pour le changement climatique, si les États-Unis ne s'intéressaient qu'aux États-Unis, ben on pourrait pas régler le problème du changement climatique. Ça nuirait aux États-Unis et au monde entier. Donc, il faut quand même travailler en collaboration pour régler nos problèmes et avoir. Ben, je crois que tous les pays ont quand même une motivation nationale avant tout.
Je reviens à la question fiscale aux États-Unis. Si les démocrates l'emportent, les grandes entreprises et les 1% d'Américains les plus riches vont payer beaucoup plus d'impôts. Est-ce que vous, l'économiste, vous ne redoutez pas qu'ils prennent tout simplement leurs jambes à leur cou ?
Non, là, je pense pas que le risque existe vraiment. Alors, ça pourrait se faire en France. C'est-à-dire que si vous augmentez trop les impôts, il y a des gens qui vont peut-être fuir dans les pays voisins. Mais c'est beaucoup plus difficile de quitter les États-Unis. Le pays est beaucoup trop grand pour ça. Mais si on revenait au taux d'imposition qui était pratiqué sous les présidents Clinton et Obama, ça poserait pas de problème. L'économie se portait très bien à l'époque. Donc là, non, cette proposition d'augmenter les impôts ne m'inquiète pas trop. Au contraire, je suis plutôt pour parce que, en fait, il y a beaucoup d'inégalités aux États-Unis. Il y a beaucoup de besoins. On aura besoin de recettes fiscales pour répondre à ces besoins.
Quel que soit le vainqueur, on sait déjà qu'il va mettre beaucoup d'argent sur la table. Il va dépenser énormément. Pour sortir de cette crise, la dette américaine va continuer de grimper. Est-ce que, pour vous, ça n'est pas un problème ?
Non, je ne pense pas que la dette pose un réel problème aux États-Unis parce que les taux d'intérêt sont très faibles, le service de la dette que nous payons est en baisse continue et ce qui veut dire que notre pays, un grand pays qui emprunte dans sa propre monnaie, qui maîtrise sa politique monétaire, ça nous donne toute la marge de manœuvre nécessaire à court terme. Et du coup, la réduction du déficit budgétaire n'est pas une priorité économique.
Dernière question, Jason Furman. Chaque élection est importante, mais en quoi celle-ci, en 2020, est-elle particulière pour vous ?
Vous savez, à chaque élection, il y a des gens qui vous diront que c'est l'élection la plus importante de leur vie et c'est certainement le sentiment qu'on éprouve cette fois-ci parce que ce n'est pas simplement une question de politiques économiques, hein, c'est aussi une question de changements institutionnels qui sont prévus. C'est un véritable référendum pour savoir si le pays est d'accord avec la façon dont Donald Trump essaie de changer les normes et les institutions. Et c'est ça le sens profond de cette élection.
Jason Furman, professeur à Harvard, ancien conseiller économique du président Barack Obama. Thank you so much. Merci beaucoup. Et merci à Robert Wolfenstein pour la traduction.
Merci beaucoup.
Et bonjour Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, ça se passe aussi aux États-Unis ce samedi. Vous revenez sur la lutte contre les discriminations raciales dans les entreprises. Est-ce que cette lutte a progressé ces dernières années, Sandrine ?
Alors, pas vraiment. Des beaux discours sur la diversité à la réalité des actes. Il y a au moins 3 Golden Gate. Dans les 500 premières entreprises du classement Fortune, on ne compte que 4 PDG noirs dans celle du S&P 500, l'indice boursier américain. C'est même pas la peine d'en chercher. Chez Nike, par exemple, 22% des employés sont afro-américains, mais ce n'est le cas que de 10% des directeurs. Cette absence de minorité se retrouve à tous les étages des entreprises. Les politiques de discrimination positive instaurées dans les années 60 pour que les étudiants de couleur accèdent aux universités ont marqué des points au début, mais se sont révélées inefficaces dans le temps. Et ça se traduit dans les chiffres. 27% des Noirs font des études supérieures contre 60% pour les Blancs. Et leur taux de chômage est 2 fois plus élevé. Mais ce qui change cette année, Alexandra, c'est la libération de la parole. Le meurtre de George Floyd par des policiers a ravivé le mouvement Black Lives Matter et encouragé les employés noirs à dénoncer les actes racistes dont ils étaient témoins. Comme pour MeToo, ils l'ont fait sur les réseaux sociaux. Ils ont mis les employeurs devant leurs responsabilités.
Mais est-ce que ça a un résultat positif ?
Bien sûr, comme chez nous d'ailleurs, les débats sont vifs sur la justice expéditive des réseaux, mais les témoignages glaçants d'employés afro-américains, les vieilles photos de responsables blancs grimés en noir postées sur Twitter ou Facebook, ont commencé à faire tomber des têtes dans le monde de la mode et des médias. Les afro-américains veulent des actes, et ce qui est plus intéressant, c'est que ça commence à bouger. Adidas s'est par exemple engagé à recruter 30% de salariés issus des minorités. Au niveau d'un État, la Californie, toujours en pointe, a voté une loi le 30 septembre qui oblige tous les conseils d'administration à avoir au moins un administrateur issu d'une minorité ethno-raciale ou sexuelle en 2021 et davantage en 2022. Les entreprises américaines ont un outil que nous n'avons pas en France, la possibilité de faire des statistiques ethniques. Si on veut vraiment agir, ça permet de mesurer les discriminations à l'embauche, les évaluations biaisées, les non-promotions d'employés noirs. La Harvard Business Review conseille aussi aux employés blancs de s'en mêler, de ne plus garder le silence. Comme disait Desmond Tutu, si vous êtes neutre dans des situations d'injustice, vous avez choisi le parti de l'oppresseur. Le chemin risque encore d'être très long, mais cette année 2020 aura au moins fait taire les discours lénifiants sur la diversité bienheureuse.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.